Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. L'heure des infos du journal avec vous Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Conformément aux prévisions de la RATP en raison de la grève massive de ses agents dénonçant la réforme des retraites actuellement en chantier, le trafic sur le réseau du métro parisien est presque intégralement paralysé depuis ce matin. La veille, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé que les régimes spéciaux tels que ceux de la RATP mais aussi de la SNCF ou bien encore des entreprises du secteur électrique et gazier étaient tous voués à disparaître.
Un coup dur pour le groupe Pronupsia.
Oui, le spécialiste de la robe de mariée a été placé en liquidation judiciaire. Plus de 200 emplois sont aujourd'hui menacés si d'ici 3 mois aucun repreneur ne se fait connaître.
Les Bahamas à nouveau menacés par une nouvelle tempête tropicale qui pourrait s'abattre aujourd'hui ou demain sur les îles touchées par l'ouragan Dorian.
Sans compter que 10 jours après le passage dévastateur donc du cyclone, plus de 1000 personnes sont toujours portées et disparues. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Antoine Pellissolo, psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil, professeur de médecine à l'université Paris-Est Créteil. Avec lui, nous parlerons éco-stress. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Eh bien, nous allons parler inégalités aujourd'hui et idéologies qui les sous-tendent ou sur lesquelles ces inégalités sont adossées avec notre invité, l'économiste star Thomas Piketty. Il publie le deuxième volet, sorte de prolongement de son Capital au XXIe siècle aujourd'hui et l'essai s'appelle Capital et idéologie. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Ils avaient annoncé la couleur un vendredi noir que même la couleur du ciel n'aura pas permis de venir éclaircir depuis que la capitale s'est réveillée ce matin plus tôt encore qu'à l'habitude. Le risque de thrombose n'aura fait que se vérifier d'heure en heure, des trottoirs bondés, partout des flottis de vélos et autres trottinettes, sans oublier plus de 280 km de bouchons cumulés. Conséquence donc de stations de métro fermées, de lignes à l'arrêt ou saturées pour toutes celles partiellement ouvertes. Comme prévu, la grève à la RATP, première offensive syndicale contre la réforme des retraites, s'avère extrêmement suivie et même d'une ampleur inédite depuis 12 ans, plus exactement depuis un certain 18 octobre 2007 et un mouvement qui déjà à l'époque visait une réforme des régimes spéciaux de retraite. Alors pour tous les usagers de la RATP, ce vendredi 13 porte évidemment bien son nom, mais c'est aussi le cas pour tous les salariés de la régie des transports parisien pour qui la perspective de voir démanteler le régime spécial de retraite des agents au statut a mis le feu aux poudres. Je vous propose d'écouter Mohamed Bouzouren, conducteur de métro sur la ligne 2 et syndiqué à l'UNSA.
On a de la colère quand même parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois on nous montre du doigt, on nous stigmatise, on essaye de nous mettre en pâture pour faire passer une réforme. Alors la réforme elle va être injuste pour tout le monde. On comprend nous que les gens qui sont dans les petites sociétés, ils peuvent pas se mettre en grève, mais il y a une colère en France, hein. Il y a une colère. On a vu les gilets jaunes, c'est parce que les gens ils ont l'impression qu'à chaque fois on tape sur les plus petits. On tape sur les petits et nous on est des petits et on veut nous faire passer pour des grands. Et on n'est pas des privilégiés. Hein. Quand vous avez des agents de station qui gagnent 1800 euros en fin de carrière. Et que vous avez des machinistes, des conducteurs de bus qui finissent à 1900 euros, c'est pas des privilégiés au bout de 30 ans.
Alors on vient de l'entendre, les agents de la RATP, tout particulièrement donc les conducteurs, réfutent le fait d'être des privilégiés. Pour eux, le départ anticipé à la retraite dont ils bénéficient n'est qu'une compensation, en somme, aux nombreuses contraintes de leur métier. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se cache, au fond, Anne-Laure, derrière ce fameux régime spécial?
Alors d'abord, c'est un régime qui concerne les personnels recrutés par la RATP entre l'âge de 18 et 35 ans. Ils cotisent auprès d'une caisse autonome à hauteur de près de 13% de leur salaire brut, mais ça ne suffit pas à équilibrer ce régime en raison notamment des départs anticipés. L'État verse donc une subvention pour assurer cet équilibre, une subvention significative puisqu'elle représente près de 60% des ressources de cette caisse. Alors l'âge moyen de départ des agents de la RATP est de 55,7 années, hein, selon un rapport de la Cour des comptes, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a 3 catégories différentes. Les sédentaires, les personnels administratifs qui partent entre 60 et 62 ans, les personnels de maintenance, entre 55 et 57 ans, et les agents d'exploitation, les conducteurs de bus et de métro, qui peuvent prendre leur retraite entre 50 et 52 ans. Pour ces 2 dernières catégories, l'âge de départ est abaissé, effectivement, vous le disiez, en raison de la pénibilité du métier. Et pour ce qui est de la pension, elle est calculée comme celle des fonctionnaires, en tenant compte des 6 derniers mois de salaire. Alors ce régime spécial a déjà fait l'objet d'une réforme, toujours en cours, qui relève de 2 ans l'âge de départ pour toutes les catégories. Elle sera pleinement effective en 2024. 2024, un an avant la réforme que prépare le gouvernement. Et puis fin 2024, ce sera aussi l'ouverture à la concurrence pour les lignes de bus actuellement exploitées par la RATP. Une échéance qui inquiète et qui renforce la détermination de certains grévistes inquiets de perdre leur statut.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors précisons que ce vendredi noir dans les transports parisiens sera suivi dès lundi d'une manifestation à Paris des avocats, mais aussi des pilotes de ligne, des stewards, des hôtesses, de même que des infirmiers et des médecins. Tous entendent à leur tour défendre leur régime de retraite. Et à cela, il faut encore ajouter la mobilisation syndicale quand Force Ouvrière prévoit un rassemblement dans la capitale le 21 septembre prochain. La CGT, Solidaire et Sudrail défileront eux ensemble 3 jours plus tard. Ou dit autrement, et quand bien même l'exécutif a, semble-t-il, retenu la leçon des turbulences passées en vue de celles qui pourraient venir, on a du mal à voir aujourd'hui les effets bénéfiques de cette nouvelle stratégie d'apaisement. Alors est-ce parce qu'en dépit des concertations avec les partenaires sociaux et des consultations citoyennes prévues pour commencer d'ici quelques jours, le gouvernement n'en reste pas moins déterminé à boucler ce dossier, à moins que les oppositions en général ne soupçonnent au fond l'exécutif de vouloir temporiser sur cette refonte des retraites après 18 mois déjà de consultations et un rapport remis l'été dernier. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Édouard Philippe aura passé toute sa journée d'hier à tenter d'expliquer et de rassurer en s'adressant tout d'abord aux partenaires sociaux, puis aux Français avec son intervention au journal télévisé, manifestement en vain.
Oui, entre la journée de mobilisation aujourd'hui et celle prévue lundi, on voit qu'il y a dans cette réforme des retraites de quoi générer une multitude de mécontentements et de contestations, et ça le Premier ministre en est pleinement conscient. C'est la raison pour laquelle hier soir, dans le journal de 20h sur TF1, il s'est livré à un exercice tout en circonvolution, soufflant à la fois le chaud et le froid. Édouard Philippe qui s'est d'abord efforcé de faire de la pédagogie, cette réforme, elle est nécessaire, a-t-il expliqué encore une fois.
Il faut dire la vérité aux Français. Compte tenu des évolutions démographiques, compte tenu du rapport entre le nombre d'actifs qui payent les retraites et le nombre de retraités qui touchent les pensions, nous allons travailler plus longtemps. Que ce soit dans un système par durée de cotisation ou dans un système par âge pivot ou d'équilibre, de toute façon, nous allons travailler un peu plus longtemps.
Et puis le Premier ministre s'est appliqué à essayer de rassurer tout le monde, affirmant que rien n'est encore décidé, que tout va se faire dans la concertation et pas dans la précipitation.
Ce que je veux dire, c'est que nous avons du temps. Nous prenons le temps de discuter, de construire, de trouver des solutions adaptées à chaque situation, de rassurer les Français. Le système doit commencer à fonctionner le 1er janvier 2025. Et nous avons prévu des périodes de transition pouvant aller jusqu'à 15 ans en fonction des différents systèmes. Donc ça veut dire 2040. Bon. Moi, je veux garantir le fait que cette réforme va vers plus de justice, vers plus de solidité du système, vers plus de transparence et de confiance dans le système. Et pour ça, il faut prendre du temps et on va le prendre.
Pour ce qui est du calendrier avant l'examen de cette réforme à l'Assemblée et au Sénat, il y aura une consultation des Français avec des réunions publiques, sans doute sur le modèle de ce qu'on a pu voir avec le grand débat au printemps dernier. Ça, c'est prévu jusqu'en décembre. Et puis, parallèlement, des discussions seront menées avec les partenaires sociaux et les représentants des catégories professionnelles. À ce stade, l'examen et le vote de la loi sont prévus avant la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire avant l'été prochain.
Merci Stéphane Robert. Depuis ce matin, un comité d'entreprise extraordinaire d'Aigle Azur épluche les 14 offres finalisées de reprise de la compagnie aérienne. Autant de propositions qui ne font pas l'unanimité chez le personnel et les syndicats, alors que l'avenir du groupe reste toujours en suspens dans la dernière ligne droite de la procédure de redressement judiciaire. Le distributeur français de robes de mariée Pronupsia a lui été placé en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Laval. Le groupe qui emploie aujourd'hui 234 personnes avait déjà été placé en redressement judiciaire. C'était en 2012. Un plan de continuation avait finalement été adopté un an plus tard et le paiement de sa dette étalé sur 10 ans, sauf qu'il lui reste toujours 9 millions d'euros à rembourser. Or, outre un chiffre d'affaires en baisse, les comptes du groupe sont aussi affectés aujourd'hui et depuis quelques années par le cours du dollar, mais également la concurrence de la vente en ligne. Quoi qu'il en soit, l'entreprise qui revendique toujours la place de leader du marché est aujourd'hui en poursuite d'activité jusqu'au 4 décembre et un administrateur judiciaire a été nommé pour trouver des repreneurs. Alors avec quel espoir ? Élément de réponse avec Germain Treille de France Bleu Mayenne.
On va faire en sorte de trouver une solution, explique le PDG de Pronupsia, Philippe Massé, que nous avons contacté. Il se dit touché, mais pas abattu. Depuis le début du mois d'août, son entreprise est en cessation de paiement, mais a été autorisée à poursuivre son activité. Un administrateur judiciaire a été nommé. Je suis à ses côtés, on est combatif, poursuit Philippe Massé. De graves problèmes de trésorerie sont apparus au printemps dernier en raison d'une baisse de 10% du chiffre d'affaires. Le groupe emploie 234 personnes partout en France, dont une trentaine au siège social à Louverné et dispose d'un maillage national avec 41 boutiques au total, toutes dans de grandes villes. Plusieurs facteurs expliquent la crise que traverse Pronupsia. Un phénomène sociologique, les Français se marient moins qu'avant, le PAX, simple formalité administrative, sans grande cérémonie, représente désormais près de la moitié des unions. Un phénomène économique, le mouvement social des Gilets jaunes au cours du premier trimestre, fut désastreux pour la société. Enfin, la concurrence avec Internet. On peut aujourd'hui acheter une robe de mariée en Chine, sans contrôle, sans droit de douane. Nous ne sommes pas protégés, se désole le patron de l'entreprise.
L'heure du jugement au procès des époux Balkany poursuivi pour fraude fiscale. La décision du tribunal correctionnel de Paris est attendue d'ici une heure. Rappelons que le 16 mai dernier, le parquet national financier a requis 4 ans de prison avec incarcération immédiate contre le maire de Levallois-Perret, 4 ans dont de ferme contre son épouse et première adjointe Isabelle, mais aussi 10 ans d'inéligibilité contre les deux élus. Enfin, précisons qu'il s'agira en réalité du premier des deux jugements attendus dans ce procès. Pour le second volet consacré, lui, au délit de blanchiment et de corruption, il faudra encore patienter un mois avec un délibéré fixé au 18 octobre. Il était encore récemment le numéro 2 de l'ambassade française au Salvador, du moins jusqu'à sa mise en examen, c'était en juin dernier, pour association de malfaiteurs terroristes. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
L'information a été révélée hier par nos confrères du Parisien. Ce diplomate de 51 ans est soupçonné d'appartenir à un groupe d'ultra-droite qui projetait des attaques contre des musulmans en France.
L'AFO, comme action des forces opérationnelles, on avait déjà entendu parler de ce groupuscule une première fois en juin 2018 au moment d'un premier coup de filet. À l'époque, l'AFO disposait encore d'un site internet très rudimentaire. Elle y expliquait son objectif en 5 mots, lutter contre le péril islamiste. Elle proposait de préparer des citoyens soldats français au combat sur le territoire national. On y trouvait essentiellement des fiches pratiques pour survivre en milieu hostile. L'enquête a révélé qu'un passage à l'acte violent avait été envisagé, mais les contours en étaient encore imprécis. À la tête de ce groupuscule, il y avait un retraité de la police nationale et parmi les membres, des hommes et des femmes âgés de 33 à 70 ans. Cette mise en examen de juin dernier est la 14e dans cette affaire, mais il ne s'agit pas d'un citoyen lambda. Cet homme de 51 ans était le numéro 2 de l'ambassade de France au Salvador. Il aurait d'ailleurs envisagé d'utiliser la valise diplomatique pour faire entrer des armes en France, échappant ainsi à tout contrôle. Il aurait, selon le Parisien, avoué en garde à vue que le projet initial de l'AFO était de frapper dans tout le pays des cibles reconnues comme étant islamistes radicales après une attaque terroriste de type 13 novembre. Une opération halal consistant à empoisonner des produits destinés aux musulmans aurait également été envisagée. Le diplomate a été interpellé en juin dernier à Roissy. Il a été placé en garde à vue, puis mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. L'homme a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France. Il a par ailleurs été suspendu de ses fonctions par le Quai d'Orsay.
Merci Antoine Marette. En Turquie, 5 ex-journalistes du principal quotidien d'opposition turc, Cumhuriyet, condamnés à des peines de prison à l'issue d'un procès décrié par les défenseurs de la liberté d'expression, ont été remis en liberté hier. Leur procès était devenu emblématique de l'érosion de la liberté de la presse en Turquie sous le président Erdogan. À Istanbul, les précisions d'Anne Andlauer.
La Cour de cassation turque était censée se prononcer sur le cas de 6 anciens journalistes et dirigeants du quotidien Cumhuriyet, condamnés en avril 2018, puis à nouveau en appel en février dernier, à des peines supérieures à 5 années de prison pour assistance à une organisation terroriste. 6 autres collaborateurs du journal étaient quant à eux privés de cette voie de recours, car leur sentence était inférieure à 5 ans. 5 d'entre eux, dont le célèbre caricaturiste Moussa Kart, avaient été incarcérés. Dans un premier temps, la Cour de cassation a invalidé la condamnation des journalistes qui s'étaient tournés vers elle. Puis elle a estimé que cette décision devait aussi s'appliquer aux autres collaborateurs. Elle a donc réclamé la libération de Moussa Kart et de ses collègues dans l'attente d'un nouveau procès. Le caricaturiste a su trouver les mots pour décrire l'absurdité des charges qui le visent. Il est difficile de vivre dans un pays qui a perdu son sens de l'humour, mais il est encore plus difficile de vivre dans un pays où tout est une farce, a lancé Moussa Kart à sa sortie de prison. Comme lui, des milliers de Turcs sont accusés de terrorisme pour avoir fait usage de leur liberté d'expression et sont quasiment assurés d'une condamnation. Même s'il faut le dire, ces derniers temps, influencés par des verdicts de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l'homme, les tribunaux turcs prononcent de plus en plus d'acquittements et de remises en liberté. Au début du mois, une cour d'Ankara a ordonné la libération du leader kurde Selahattin Demirtas. Condamné dans un autre procès, il demeure toutefois en prison.
À tous ceux chez qui ses faux pas et ses propos confus de l'été dernier avaient fait naître des doutes quant à son état de forme, Joe Biden, 76 ans, a fait la démonstration hier soir qu'il n'a rien perdu de sa pugnacité. Lors d'un débat télévisé très attendu, le favori de la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2020 a taclé tous ses principaux rivaux, au premier rang desquels Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Incisif, l'ancien vice-président de Barack Obama s'est montré, a défendu farouchement ses positions centristes face aux deux candidats, donc plus à gauche, qui pour leur part n'auront eu de cesse de maintenir un front uni lors de ces échanges. Enfin, pendant que les démocrates débattaient, donc le locataire de la Maison Blanche et candidat à sa propre succession, Donald Trump, ironisait pour sa part lors d'un dîner avec des républicains, dépeignant ses opposants comme, je cite, des socialistes menaçant le rêve américain. Le chaos autant que la malédiction aux Bahamas 10 jours après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian. Non seulement une marée noire est venue ajouter au cataclysme climatique une catastrophe environnementale, mais une nouvelle tempête tropicale menace encore de s'abattre aujourd'hui sur l'archipel. Pour l'heure, le bilan officiel fait toujours état de 50 morts, mais il pourrait encore s'aggraver dans les prochaines semaines. 1300 personnes sont toujours portées disparues. Ce vendredi, le secrétaire général de l'ONU est attendu sur place, Antonio Guterres, qui devrait notamment rappeler à la nécessité pour la communauté internationale d'accroître son soutien à la population sinistrée. Notre envoyé spécial Thibault Lefebvre s'est lui rendu sur l'île d'Abaco, particulièrement touchée là-bas. Parmi ceux qui ont fait le choix de rester en dépit d'un pont aérien et maritime mis en place la semaine passée, rares sont ceux qui ne connaissent pas au moins un mort ou un disparu.
Elle s'appelle Jenny, c'est une amie de longue date de Towell, et comme ce pêcheur d'Abaco, elle a une 50aine d'années, elle a toujours vécu sur l'île, mais depuis 10 jours, Jenny est introuvable.
Je ne sais pas où elle est. La police trouve des corps, mais ils ne savent pas à qui ils sont, car ils peuvent être abîmés. Il peut y avoir des corps partout, dans la mer ou dans la forêt. Il y a aussi de nombreuses personnes qui ont été évacuées. Quand vous perdez votre maison, vous pouvez partir, juste comme ça. Vous sautez dans l'avion, vous choisissez une destination. Certaines personnes ont disparu juste comme ça.
Les quartiers les plus touchés d'Abaco sont les plus pauvres, peuplés essentiellement d'immigrants haïtiens, pour certains sans papier. Julie en connaît 4, morts ou disparus, et elle est très remontée contre son gouvernement.
Je pense que les Français ou n'importe qui ne vit pas aux Bahamas se serait précipité dans les abris si le gouvernement l'avait demandé. Ici, les gens ont attendu la dernière minute parce qu'ils imaginaient que les services de l'immigration allaient les interpeller. C'est ce qu'ont cru beaucoup de personnes parce que la plupart des morts sont haïtiens. Et selon moi, c'est la faute du gouvernement.
Et pour répondre au début de polémique et inciter les Haïtiens sans papier à se manifester, le gouvernement bahaméen a décidé de suspendre momentanément les procédures d'expulsion.
On l'a appris ce matin, le chanteur du groupe culte de Cold Wave, Mark Itzad, Philippe Pascal, est décédé ce matin à l'âge de 63 ans, emblématique de la scène rennaise des années 80. Il avait également et durablement influencé la scène rock française. Il préparait un nouvel album pour l'an prochain. Une enquête est en cours concernant les circonstances de son décès. Multiplication des catastrophes liées au réchauffement climatique, pollution des airs, de l'eau, des sols quasi irréversibles, submersion des littoraux engloutis sous la montée des océans. Chez l'humain, espèce déjà en partie en voie de disparition du fait de son action désastreuse sur la planète, le « on va tous mourir » et même plus vite que prévu génère aujourd'hui une éco-anxiété, une réaction de peur en somme. À l'origine, par exemple, de stress, d'insomnie, voire de dépression. Sauf que cette éco-anxiété peut aussi avoir des conséquences positives, notamment avec l'émergence d'une réelle éco-résilience, ou quand parfois les émotions négatives jouent à terme un rôle positif. Et pour parler de tout cela, invité aujourd'hui de la rédaction Antoine Pellissolo, psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Véronique Robert-Rode. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors précisons tout de même que tout ce dont nous allons parler s'appuie au départ sur un ouvrage intitulé « Le bug humain » écrit par Sébastien Bollet et paru aux éditions Lafon. Peut-être pour commencer, monsieur Pellissolo, pourriez-vous nous expliquer en quoi la recherche de toujours plus de plaisir est quelque chose de profondément humain, de sorte que ce qui rongerait nos sociétés aujourd'hui et menacerait donc la vie sur Terre C'est au fond un besoin naturel de consommation au-delà de nos besoins, au détriment donc de notre propre santé et celle de la planète.
Oui, alors c'est, je ne sais pas si c'est humain, c'est animal, animal. C'est une fonction très primaire que l'on a dans notre cerveau qui est de garantir notre survie par la recherche d'alimentation et de reproduction. Donc en fait, on a un système de récompense dans le cerveau qui fait qu'on recherche du plaisir, comme tous les animaux. Sauf que nous, on a en plus développé une intelligence quand même supérieure, parfois géniale, qui a permis d'obtenir des ressources un petit peu infinies et pour lesquelles, en gros, on n'a plus besoin maintenant de cette fuite en avant vers plus de consommation. Sauf que comme on a lancé le système et que notre cerveau animal, ce cerveau un peu primaire, reste très actif, on n'arrive plus à se restreindre comme il le faudrait, alors que donc, encore une fois, on a une pléthore, en tout cas dans les pays riches, par exemple, de nourriture et souvent inadaptée à notre santé aujourd'hui. Donc c'est ce décalage-là entre notre cerveau primaire et nos capacités, effectivement, qui sont surnaturelles quasiment. On a pu changer le cours de la planète quand même avec nos activités, qui crée un vrai conflit, voire même une catastrophe à venir.
Question de Véronique Robert-Hott.
Pour l'instant, on est dans cette incapacité pour l'humain de se freiner, c'est ça ? Il y a vraiment un conflit entre une prise de conscience et puis ses fonctions primaires ?
Alors les fonctions primaires, heureusement, on est aussi en mesure, en capacité normalement, de les contrôler. Pas tout le temps et pas tout le monde. Il y a des gens qui ont un problème de surconsommation, de produits, de différents types de conduites, qu'on appelle les addictions. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu comme si toute l'espèce humaine était addicte à la consommation. Et donc, on est en capacité de s'en rendre compte et théoriquement de réorienter nos comportements. Et c'est cela qu'on peut aujourd'hui espérer grâce à cette prise de conscience, parce que heureusement, on a cette capacité-là aussi.
Heureusement, vous le dites, il y a l'éco-anxiété, une peur, et on l'aperçoit d'ailleurs très bien chez jeunes qui manifestent depuis quelques mois contre le réchauffement climatique. Donc, il y a cette éco-anxiété qui peut nous mener à quoi ? Elle a pour l'instant des effets un peu délétères sur notre santé, mais réagir.
Je pense que les effets délétères, ils sont quand même assez marginaux. C'est quelques personnes qui sont de nature anxieuse, elles aussi, qui ont une souffrance plus forte. Mais sinon, c'est avant tout un système d'alarme. L'autre système qui est le pendant du système de la récompense, c'est le système de la peur qui nous permet de dire stop, là, on est dans une situation dangereuse. Et je crois qu'on a aujourd'hui beaucoup de signaux d'alarme. On vient d'en avoir, qui sont les transformations du climat, les transformations de la biosphère et de tout ce qui normalement nous fait vivre, qui peut nous alerter en disant dans quelques décennies, alors qu'avant on voyait ça très loin, notre survie est en danger. Donc cette prise de conscience peut déclencher un changement radical de comportement si c'est fait vite. Là, tout l'enjeu, c'est que tout ce changement-là doit se faire en quelques années, quelques décennies au maximum, alors que jusqu'à présent, il y a une forme d'inertie qui est très ancienne. Alors, les changements climatiques se sont faits sûrement depuis des siècles. Il y a une forte inertie physique, il y a aussi une forte inertie psychologique qui est qu'on s'est habitué. Et en tout cas, nos générations, par exemple, n'ont pas été élevées dans l'idée qu'il faudrait changer son mode de vie très jeune, plus tard. C'est pour ça qu'il faut, je pense, s'y prendre très tôt maintenant avec les plus jeunes. Et c'est le cas, d'ailleurs, c'est ceux qui sont les plus sensibles à ces questions-là, qui sont évidemment en plus les plus concernés pour l'avenir.
Mais cette éco-anxiété, elle peut vraiment constituer, selon vous, un bon levier de réaction individuelle, collective aussi, pour nous inciter à modifier nos comportements. Retrouver aussi, vous dites, des valeurs humaines, justement, collectives, donner du sens aussi à nos vies, finalement.
Oui, parce que la réaction face à la peur, au début, ça peut être un peu l'effroi, la panique. Et puis après, on réfléchit quand même, on fait fonctionner notre cerveau et l'intelligence collective. Et la meilleure réponse, même si on peut être un peu désespéré, mais la meilleure réponse quand même, c'est l'action, vraiment face à toutes les peurs. Pour gérer ces émotions négatives, il faut agir, et agir collectivement, et dans ce cas précis, agir en plus en conformité avec justement ce que l'on veut changer, la manière dont on doit s'adapter à un environnement qui change. Donc s'engager, comme le font beaucoup de jeunes notamment, dans des combats autour de l'écologie, autour des changements de comportement, de consommation, ne peut être que bénéfique pour la personne. Et en plus, c'est bénéfique pour la collectivité, puisque c'est par ce levier-là qu'on peut espérer des changements à long terme.
Est-ce que les collapsologues, ceux qui prédisent un effondrement plus ou moins rapide de nos sociétés, du système planétaire, est-ce qu'ils viennent un peu contrarier les effets éventuellement de cette éco-anxiété qui dit vitale pour agir encore maintenant, ont l'air de dire que c'est déjà trop tard.
Alors ils disent pas, je pense que le souvent ils disent effectivement on est allé très très loin, mais c'est surtout pas, la réponse c'est pas sur, c'est surtout pas on arrête de s'en préoccuper, que de toute façon tout est foutu. Je pense qu'on est plutôt dans l'idée que même s'il y a une forme de traumatisme, voire de deuil à faire d'un monde ancien, je pense que la réaction ensuite, après le deuil, c'est toujours en fait de reconstruire. Et je pense que ce qu'on appelle la résilience, c'est ça aussi, il y a une résilience, on peut dire collective et environnementale, là, qui doit être mise en œuvre, et je pense que c'est tout à fait possible si les choses sont partagées très vite. Et là, en ce moment, elles sont partagées de plus en plus vite.
Qu'est-ce qu'on fait avec les fonctions primaires d'un Donald Trump ou du président du Brésil, M. Bolsonaro, qui n'ont pas l'air d'être tout à fait ni inquiets, ni prêts à bouger?
Alors, effectivement, on peut appeler ça des fonctions très primaires, en l'occurrence. Malheureusement, quand elles sont ancrées dans l'éducation très tôt, c'est difficile de changer. Et je crois que notre culture change vite, mais certains sont plus en avance que d'autres. Malheureusement, c'est un peu tard pour les personnages dont vous parlez. J'espère qu'on peut faire mieux avec les plus jeunes aujourd'hui et autour de nous.
Et on terminera par ces mots. Merci Antoine Pellissolo, psychiatre, je le rappelle, et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Véronique Robérot. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Nuageux au nord de la Loire, estivale partout ailleurs. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par M. Le Chili à 18h. Vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.